Merci de me donner l'occasion d'apporter la parole de Dieu. C'est toujours très responsabilisant et en même temps c'est passionnant parce qu'on se dit bah tiens, c'est l'occasion d'apporter quelque chose que j'ai sur le cœur et c'est pas à tout le monde en même temps. Donc c'est chouette. J'ai envie ce matin de vous présenter un message assez simple en fait. Je pense qu'on va rien s'apprendre, je vais rien vous apprendre. En ce moment, je traverse une période où j'ai envie de revenir à l'essentiel. J'ai besoin même d'un retour à l'essentiel, aux choses qui comptent, aux choses qui sont essentielles, celles qui comptent aux yeux de Dieu, celles qui sont essentielles pour le Seigneur. Et ce matin, on a pris la Sainte-Seine et j'étais content qu'on le fasse aujourd'hui parce que ça va dans le sens de mon message. Mon message ce matin, c'est vraiment un retour à Jésus-Christ, c'est reconsidérer Jésus-Christ. Et je crois que ce qu'on a fait ce matin, c'est pas qu'un acte symbolique, c'est un acte puissant. On est en train de prendre le corps du Christ, de boire son sang, et on est en train de montrer aux hommes qui nous entourent et également à l'ennemi de nos âmes qu'on appartient, notre appartenance à Christ. Et c'est hyper important de le faire, donc je suis très content de l'avoir fait ce matin, ça va vraiment dans le sens de mon message qui est un retour à Christ. Et donc le thème de mon message ou l'intitulé de mon message sera « Jésus-Christ est suffisant pour ma vie ». Est-ce que vous le croyez déjà? Jésus-Christ lui-même le disait, hein, avant de remonter au ciel, il dira à ses disciples et aux apôtres « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc il s'affichait déjà comme étant la personne suffisante, en fait, tout pouvoir est donné à Jésus-Christ. Il dira aussi à un autre moment, quand il marchait avec ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc Jésus montre déjà aux gens qui le suivent qu'il est la source de tout, qu'il est leur essentiel, qu'il est leur base, en fait. Et Jésus-Christ le dira aussi après, alors qu'il est remonté au ciel, mais par l'Esprit, alors que Paul, vous connaissez ce message, raconte dans une lettre qu'il a une écharde dans la chair, et il dit « J'ai demandé au Seigneur Jésus de m'en libérer, et maintes fois, je lui ai demandé, je n'ai pas reçu ça, et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc là, ce n'est même pas les apôtres qui disent « Oui, Jésus, tu es suffisant », c'est Jésus qui, encore une fois, dit à Paul, alors qu'il est remonté au ciel, mais en esprit et dans la prière, « Ma grâce te suffit. » Et il nous montre en fait qu'il est suffisant. Alors, certains apôtres l'avaient compris et l'avaient expérimenté. À un moment, Jésus discutait avec des hommes de la loi, avec des pharisiens, et il y a eu un schisme. Et la Bible nous dit que certains disciples, ce jour-là, se sont détournés de Christ. Et donc Jésus interroge un peu ses disciples, et vous, que pensez-vous de ça? Et Simon-Pierre dira, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc non seulement Jésus s'annonce comme étant celui qui est suffisant pour ta vie, mais en plus, certains apôtres le proclament, le voient, l'ont expérimenté. Mais ce n'est pas tous les apôtres. En fait, il y a d'autres passages aussi qui montrent qu'il y a des apôtres, des disciples qui, des fois, ont formulé un doute. Et une fois, c'est Philippe. Hein, vous connaissez ce passage, je vais vous le lire. Jésus dit, est en train d'enseigner ses apôtres. Il lui dit, il dit aux apôtres, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Voilà ce qu'il dit. Parce que nous sommes tout en un. Je suis dans le Père comme le Père est en moi. Et donc Jésus fait rentrer cette notion de Dieu unique en fait, en trois personnes, mais nous sommes un seul Dieu. Et Philippe, alors que Jésus dit ça aux apôtres, Philippe va dire, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voilà ce que dit Philippe. Et là, Jésus est interpellé. Et en fait, ce que fait Philippe là, il est en train de dire à Jésus, tu n'est pas suffisant, Jésus. Tu n'es pas suffisant. J'ai besoin de voir le Père. Et après, cela me suffit. Mais toi, tu n'es pas suffisant. C'est-à-dire que On comprend dans ce texte que Philippe avait placé Jésus à une certaine hauteur, mais ce qu'il voulait, lui, c'était atteindre le Père. Et il n'avait pas compris que quand on atteignait Jésus, automatiquement, on atteignait le Père. Et donc Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec toi et avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ?» Il s'interroge et il répond, « Celui qui m'a vu a vu le Père, Philippe. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» Ok, donc là, ça montre aussi qu'il y a des apôtres, des gens qui ont marché avec Jésus, qui l'ont suivi pendant 3 ans, qui ont mangé avec lui, qui ont dormi avec lui, qui ont été à ses côtés tous les jours, avaient quand même ce doute, est-ce que Jésus est suffisant ? Non, moi j'ai besoin de voir le Père, montre-nous le Père et cela me suffira. Et Jésus dira, ben non, je suis le Père est en moi et le Père est en moi et je suis dans le Père. Et en fait, moi, j'ai envie de revenir à ça, en fait, à considérer Jésus-Christ comme étant le fondement de notre foi, comme étant la pierre angulaire. En fait, Jésus est central. Quand on lit la parole de Dieu, qu'on la lise de A à Z, qu'on lise l'Ancien Testament et qu'on aille jusqu'à l'Apocalypse, Jésus est partout, Jésus est central. Et en fait, c'est pour ça que Jésus dira, je ne suis pas venu abolir les lois et les prophètes, les textes anciens, mais je suis venu accomplir la loi. Parce qu'en fait, quand on lit l'Ancien Testament, tout nous ramène à Jésus-Christ, en fait. Tout nous prépare à la venue de Jésus-Christ sur terre. Et quand on lit les épîtres, après le départ de Jésus dans le ciel, tout nous ramène à ce qu'a fait Jésus pendant qu'il était sur la terre. Donc il est central. Jésus-Christ est central dans notre vie. Il est central dans le plan divin. Et il faut, mes amis, qu'il soit central dans nos vies. Alors, on va regarder, si vous voulez, ce que Jésus propose. Parce que Jésus, quand même, propose des choses. Et vous allez voir, alors là je ne vais pas être exhaustif, je pense que j'ai oublié plein de choses, mais je vais quand même vous lister un petit peu ce que j'ai lu dans la parole de Dieu et ce que Jésus propose. Pour vous montrer à quel point il est central, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est le fondement, tout passe par lui, tout transite par lui, ok ? Le Saint-Esprit, le Père, tout, on va voir ligne par ligne en fait. Donc déjà, Jésus, ce qu'il propose, c'est qu'il sauve, il guérit, il délivre, d'accord ? Ça c'est des choses, c'est le béaba, c'est l'évangile. Il nous sauve, il nous guérit, il a le pouvoir de nous guérir, corps, âme et esprit, et il a le pouvoir de nous délivrer également de toute influence mauvaise, diabolique. Ensuite, on voit aussi dans la parole de Dieu que Jésus pardonne. Il pardonne, il sanctifie, il justifie. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne vais pas vous sortir tous les versets qui sont en lien avec ça, parce qu'il y en a plein, mais je peux vous assurer que je ne dis pas faux. Là, pour l'instant, c'est bon. Il pardonne, il sanctifie et il justifie. Ensuite, troisième point, il envoie le Consolateur, l'Esprit de vérité. Ok ? Et il dira aux disciples, il faut que je m'en aille car vous avez besoin de recevoir le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Qui vous enseignera dans toute la vérité, qui vous affranchira. Quatrième point, Jésus-Christ baptise dans le Saint-Esprit. Vous connaissez ce passage où Jean-Baptiste a eu cette mission en fait de mettre en place le baptême d'eau, et donc il prêche là-dessus et donc il baptise les gens qui veulent se donner, qui veulent se convertir, et il dira lui-même « Moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi et qui est bien plus grand que moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Voilà ce que dit le texte exactement, du Saint-Esprit et de feu. Donc Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit et nous baptise de feu. Amen. La Bible nous dit aussi, cinquième point, qu'il intercède pour nous. Amen. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il est celui qui nous défend. Okay, et il y a un autre texte aussi qui s'en rapproche. Il est notre avocat auprès du Père. Amen. Il est celui qui plaide notre cause. Il est celui qui nous permet en fait d'être graciés par le Père. Amen. Un autre point encore. La Bible nous dit que Jésus-Christ nous donne accès au Père. Ok. Il nous donne accès au Père. Et c'est important d'avoir accès au Père parce que la Bible dit que nul ne vient au Père que par moi. Donc il faut qu'on vienne au Père. Et le chemin pour aller au Père, c'est Jésus-Christ. C'est la porte. Amen. Il y a plein de choses. Il est fidèle, bien entendu. Il dira aux apôtres, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il augmente notre foi aussi. Dans Luc, en fait, à un moment, les apôtres reviennent, il les a oints de puissance et d'autorité, et les apôtres commencent à revenir vers lui en disant, voilà ce qui se passe, et ils sont émerveillés, mais en même temps, ils en veulent plus, et ils disent au Seigneur, augmente notre foi. Et donc Jésus, en fait, a le pouvoir d'augmenter notre foi. Amen. Il nous donne, voilà, j'y viens, je l'ai déjà évoqué juste avant, mais la puissance, amen, l'autorité, sur toute maladie, sur toute puissance de ténèbres, sur toute possession démoniaque. Il a couvert les apôtres, il les a envoyés en leur donnant la puissance pour vaincre l'ennemi, et il le fait pour nous aujourd'hui encore. Amen. Et puis Colossiens, ce texte est magnifique, mais bon, on ne le lira pas parce que ça va être trop long, mais il dépouille l'ennemi, il nous dit qu'il dépouille les autorités, les dominations. Amen, il a cette puissance, il est le tout-puissant, en fait, il est la source de tout, Jésus-Christ. On l'a vu, là, je ne sais pas, j'ai combien, 1, 2, 3, 5, 6, ouais, j'ai 11 points, mais j'ai oublié plein de choses, hein, on est d'accord? Certainement, mais ce n'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire? Déjà là, le catalogue, il est plutôt séduisant. Et en fait, la question de Dieu, c'est de nous dire, tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu réagis comme Simon Pierre et tu lui dis, mais à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle? Où tu réagis comme Philippe, qui va te dire ouais, ok, mais moi, fais-moi voir le Père et ça me suffira. Et en fait, c'est ça la question ce matin. On peut faire un parallèle avec on a besoin d'acheter une TV, on va chez Darty et on demande à un vendeur c'est quoi la meilleure? Je veux la meilleure, je veux la plus belle, je veux la plus grosse. Ok, c'est simple. Donc le vendeur nous amène vers la plus belle, la plus grosse, la meilleure, il nous décrit tout, le Dolby Stereo c'est le dernier cri, les pixels c'est le maximum, c'est X milliards au centimètre carré, hein, l'écran c'est le plus large que vous ayez sur le marché, c'est léger, c'est passif, ça consomme aucune énergie en plus, c'est merveilleux, et en plus le vendeur finit par dire c'est gratos. On fait quoi là? On fait comme Pierre, attendez, j'arrive avec deux camions, vous avez du stock, je vais remplir les camions, ou on fait comme Philippe? Et on se dit, mais c'est trop beau ça. Non, non, ça va pas. Il y a un truc qui cloche, je vais voir le contrat avant de signer. Non, non, non. Et c'est ça en fait la question ce matin. Qu'est-ce qu'on fait en fait de ce Jésus-Christ qui a tous ces éléments que j'ai décrits, tous ces arguments, qui est le tout-puissant, qui est la source, qui est la pierre angulaire, qui est la base de notre fondement, la base de notre foi. Juste un truc, frères et sœurs, s'il n'était pas venu, Jésus-Christ, il n'était pas mort à la croix, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? On serait quoi? On serait des religieux, on est d'accord? Il n'y aurait pas eu la grâce, on serait sous la loi, sous les rites. Les rites auraient augmenté parce que finalement, les rites, c'est les hommes qui les créent. Et finalement, Jésus en parlera d'ailleurs dans les évangiles, il dira au docteur de la loi, vous annulez la parole de Dieu, autrement dit la puissance de Dieu, par vos rites et vos traditions. Et c'est là qu'il est en contradiction avec la loi. Il n'était pas là pour abolir la loi, parce que la loi révélait la personne de Jésus, mais il était là pour aussi casser tous les rites qui s'étaient forgés d'année en année, de siècle en siècle, et qui avaient détourné en fait l'homme du cœur de Dieu. Et puis inversement, dans la continuité, s'il n'était pas venu, donc on serait des religieux, on ploierait sous la loi, on verrait pas la puissance de Dieu parce que nos traditions en fait annulent la parole de Dieu. Et puis également, on n'aurait pas le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, et donc on marcherait un petit peu comme des brebis errantes. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne réalise pas à quel point le Saint-Esprit nous guide dans notre vie de tous les jours. On ne le réalise pas parce qu'on vit avec lui, parce qu'on est avec lui. Mais je peux vous dire que les gens que l'on connaît qui ne sont pas à Christ sont complètement paumés, perdus. Il n'y a aucun guide, il n'y a rien devant eux. Et nous, on a ce privilège d'avoir le Saint-Esprit. Jésus nous l'a envoyé, Jésus nous l'a promis, il l'a envoyé. Et ce Saint-Esprit nous guide, est notre conducteur. Et voilà ce qu'on serait en fait. C'est pour ça, je dis ça pour que vraiment on réalise ce matin que Jésus, dans le plan divin, dans notre vie chrétienne, est l'élément central, la base, le fondement. Et j'avais envie de dire ça ce matin parce que on vit des temps extraordinaires dans l'Église, il y a plein de projets qui se mettent en place. Et moi, je suis OK avec les projets. Enfin, j'aime une église qui a des projets, qui veut avancer et qui veut mettre des choses en place. Mais je dis, on ne peut pas faire ça sans considérer que Jésus-Christ doit être central dans nos vies. Amen. Ne pas oublier ça, c'est hyper important. C'est pour ça que c'est un retour en fait à l'essentiel ce matin. Est-ce que Jésus est suffisant pour ma vie? Est-ce que Jésus est suffisant pour ma vie? J'ai lu un témoignage d'un missionnaire néerlandais, en fait, qui est parti en Chine à l'époque où, enfin c'est toujours le cas, mais il y a quelques années déjà, il y a pas mal d'années, à l'époque où l'Église était persécutée en Chine et où il n'y avait pas d'accès à la parole de Dieu, il n'y avait pas d'accès aux enseignements, il n'y avait rien du tout. Et donc il a été invité en catimini, en cachette, par un pasteur chinois qu'il avait eu en contact. Enfin, bon, il explique tout ça. Donc il fait un voyage de dingue, il arrive en avion, il prend la voiture pendant 8 heures, après il marche pendant 3 heures dans la forêt. Et il arrive le soir dans un endroit, il y a une grotte, et le pasteur chinois lui dit, ben voilà, c'est là que le peuple de Dieu est rassemblé, on se cache parce que sinon on est persécuté. Et lui, en fait, sa mission sur ce jour-là, c'était d'arriver, d'apporter la parole de Dieu, d'apporter des enseignements, d'apporter quelque chose dont le peuple chinois avait besoin parce qu'il n'avait rien, il n'avait que la personne de Jésus. Et il décrit en fait la scène quand il est entré dans cette grotte. Il a vu des milliers de Chinois en train d'adorer Jésus-Christ, en train de louer Jésus-Christ. Il a été saisi d'un truc de dingue. Il dit dans son témoignage, je n'ai jamais vécu une telle présence du Seigneur. Et ces gens-là n'avaient rien, aucun enseignement, rien. Ils avaient l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ. On leur avait annoncé Jésus-Christ, ils y ont cru et ils étaient dans une présence de Dieu incroyable. Et en fait, il a été très honnête, il a dit, j'ai passé quelques jours avec eux et au final, ils m'ont beaucoup plus apporté que moi je leur ai apporté. Ça devait se faire dans l'autre sens. Au final, je suis reparti avec un chamboulement total et à partir de là, j'ai changé ma vie, je me suis concentré sur Jésus-Christ. Et souvent, on peut se faire absorber, hein, c'est vrai, hein, il faut être honnête, par plein de choses, des choses tout à fait non spirituelles, c'est-à-dire notre travail, nos familles, nos enfants, la construction d'une maison. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment nous absorber, nous détourner en fait de Jésus-Christ. Mais même des fois dans l'Église, en fait, et c'était sa réaction à ce pasteur-là, c'est que je me sentais bien beau devant le Seigneur, mais j'avais tout loupé en termes de communion avec lui, de communion avec Jésus-Christ. J'étais à côté de la plaque. Et c'est important en fait de recentrer notre vie chrétienne sur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est central, il est suffisant, encore une fois, je suis redondant, mais ce n'est pas grave, il faut que ça rentre dans nos esprits. Jésus-Christ est central, Jésus-Christ est suffisant. Et parce qu'il est central, il doit être au centre de nos vies, au centre de nos cœurs. Ou alors revenir au centre de nos vies, au centre de nos cœurs. Amen. Et Jésus en fait avait bien compris que il y avait un petit peu de doute dans l'esprit des apôtres, des disciples, qu'il y avait une confusion des fois, que certains n'étaient pas sûrs. Lui, bien sûr, Jésus était convaincu que les apôtres avaient besoin de lui, parce qu'il est « je suis le pain de vie, je suis la source en fait ». Mais il voyait bien qu'il y avait… et pourquoi en fait ? Parce que certainement la chair en fait est contraire aux choses de l'esprit, et donc je pense que forcément la chair et notre nature humaine ne nous amène pas vers Christ, au contraire. Et donc c'est tout ce combat en fait que l'être humain doit mener, hein, entre la chair, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et si vous regardez un peu les Écritures, vous verrez que Jésus sondait un petit peu les disciples. Il les questionnait souvent, notamment j'ai relevé quelques questions. À un moment, il dit à Simon-Pierre, m'aimes-tu, Simon-Pierre, m'aimes-tu ? Donc il essaie de voir un peu ce que va lui répondre Simon-Pierre. Après, dans un autre texte, il dira « Qui dit-on que je suis ?» Et il sonde ses disciples. « Qui dit-on que je suis ?» Aux disciples d'Emmaüs, alors qu'il est ressuscité, qu'il les rencontre, il leur dira « De quoi vous entretenez-vous alors que vous marchiez ?» Donc il essaie de savoir un peu de quoi parlent les gens, comment ils le perçoivent et tout ça. Et puis il dira aux douze aussi, dans un autre texte, « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller avec eux ?» Quand justement je parlais en introduction du schisme où certains disciples l'ont quitté à ce moment-là. Et donc il se retourne vers ses proches, les douze, les apôtres, ceux qui sont avec lui depuis le début, et il leur dit « Ne voulez pas vous aussi vous en aller avec eux ?» Donc en fait Jésus testait un petit peu, il est testé parce qu'il savait que très vite ça pouvait virer. Il le savait parce qu'il avait conscience qu'un homme est fait d'une nature humaine et que les choses de la chair sont inimitiées aux choses de l'esprit, sont contraires aux choses de l'esprit. Et alors que Jésus va repartir aux cieux, je pense que il n'était pas forcément satisfait de l'état d'engagement ou l'état d'amour des disciples ou des apôtres envers lui, puisqu'il posait ces questions. Et en fait, arrive le fameux chapitre 15 de l'évangile de Jean, que je vous invite à lire cette semaine chez vous. C'est un chapitre qui est magnifique, qui est merveilleux. Ça arrive à un moment où Jésus, c'est la veille de la crucifixion de Jésus, ou du moins c'est la veille du moment où il va être arrêté, tout ça. Et en fait, il est là, il donne un petit peu ses dernières recommandations à son peuple, à ses enfants. Et en fait, il y a quelque chose qui est fort et qui est redondant dans ce chapitre, c'est le verbe « demeurer ». Demeurer. Et moi, je suis touché par ça, parce que je vous donne quelques versets, mais c'est tellement puissant. Jésus dira, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce qui veut dire que si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Il dira à un autre moment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Est-ce qu'on veut porter du fruit, frères et sœurs ? Amen. Si vous demeurez en moi, dit-il encore, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Demeurez en moi, encore une fois, afin que je demeure en vous. Vous voyez, c'est d'abord, c'est à nous de demeurer, de décider de demeurer en Christ pour que lui demeure en nous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce verbe demeurer, là, qui revient souvent dans ce chapitre, c'est pas un verbe d'action, on est d'accord ? C'est pas un verbe d'action, c'est un verbe d'état. Demeurer, ça veut dire, grosso modo, c'est rester, enfin, si on regarde le dictionnaire, c'est rester en un lieu ou passer du temps à quelque chose. En fait, c'est cette notion de on se pose, on prend le temps, on recherche la face de Dieu, on va plus loin dans l'intimité avec Dieu. Et pour moi, c'est essentiel, frères et sœurs, et pour Christ, c'était essentiel, parce qu'il dit ça à ses disciples, à ses apôtres, la veille de sa crucifixion, c'était un peu son testament, ses dernières recommandations, et il insiste sur le mot demeurer, demeurer, demeurer. Et quand on demeure en lui, en fait, on est plein de sa présence. On est plein de sa présence et ça se voit. Et le monde le voit. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'a bouleversé aussi il y a quelques années. J'étais sur un déjeuner avec mes collègues de travail. C'était à Paris. Et voilà, on avait des discussions plus ou moins saines, hein, à vrai dire, hein, parce qu'avec le collègue de travail, ça, c'est toujours un petit peu... voilà. Je travaillais dans le médical, j'ai des commerciaux, donc c'est des forts caractères. Avec un humour assez gras qu'on retrouve souvent dans le milieu médical. Et donc moi j'étais au milieu de ça, et je dis pas que je lançais ce genre de choses, mais quand même j'étais dans une position où je corroborais, je souriais, ça me gênait, mais en même temps je participais sans être hyper actif. J'étais quand même actif à un certain degré. Et à ce moment-là, en fait, un homme rentre dans le restaurant. Et cet homme, son allure, son regard, son visage, tout reflétait la gloire de Dieu. Moi, j'ai été saisi, je vois cet homme rentrer. Mais le pire, en fait, c'est que mes collègues de travail, qui étaient animés d'un autre esprit, qui ne sont pas du tout chrétiens, l'ont remarqué, l'ont regardé. Cet homme s'est assis, il a pris une chaise, il a enlevé son manteau. Et quand il a enlevé son manteau, on a vu que c'était un homme d'église, parce qu'il avait, je ne sais plus comment on appelle ça, le fameux maillot noir avec le petit col blanc. En tout cas, on a vu que c'était un homme d'église. Mais au-delà de ça, avant qu'on voie ça, de toute façon, il avait encore son manteau, on n'avait pas vu que c'était un homme d'église, et il était rayonnant de la présence de Dieu. Et il a changé l'atmosphère de ce restaurant. Là où il y avait des blagues paillardes juste avant, il a changé l'ambiance de ce restaurant. Les discussions sont devenues saines, propres, sérieuses, belles. Et il n'a rien dit, il était juste présent au milieu de nous et il a changé toute l'atmosphère de ce restaurant. On n'était pas la seule table, hein, il y avait plein d'autres tables. Il a calmé les choses et je suis rentré de là, je suis rentré chez moi, j'avais j'étais en train. J'ai pleuré dans le train, j'ai pleuré parce que j'ai ressenti, je pense que Pierre a ressenti quand le Seigneur lui avait dit « Tu me renieras trois fois quand le coq chantera » et le texte nous dit que Pierre sortit et pleura amèrement. Et j'ai ressenti ça, je me suis dit « Qu'est-ce que je suis nul, Seigneur ? Qu'est-ce que je suis... Enfin, pourquoi ?» Et j'ai réfléchi à ça et j'ai dit « Je ne demeure pas assez auprès de toi. Je ne viens pas assez à la source puiser ce que tu es, Seigneur, ce que tu montres, ce que tu as envie de montrer aux autres. Seigneur, pardonne-moi. » Alors attention, hein, le Seigneur m'a pardonné, hein, et ça a été justement un facteur de changement pour moi. J'ai beaucoup changé à cette époque-là suite à cet événement-là. Et Ce qu'il y a en fait, c'est que on connaît hein, dans nos milieux évangéliques le dicton qui dit on n'est pas dans une religion, on est dans une relation. C'est vrai, parce que la religion en fait, c'est on est là, voilà, Dieu est là, et puis comme on a créé un couvert de rites, de traditions, de choses, d'institutions, en fait, on n'a pas accès à Dieu. Et on obéit à des choses qui, finalement, nous empêchent d'aller directement au Seigneur. Après, il y a la relation. Et là, on est tous d'accord pour dire que c'est une vie de relation, la vie de foi. Et la relation, c'est on est là, et puis il y a des échanges comme ça. Il y a des échanges entre le ciel et la terre. Et c'est beau, c'est déjà bien. Mais ce matin, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de parler de communion et pas de relation. Et la communion, pour moi, c'est pas ça. C'est juste ça. Voilà. C'est juste ça. Et ma question ce matin, c'est qu'est-ce qu'on fait de Jésus-Christ ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'il nous donne ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on voit les choses ? Je nous engage, frères et sœurs, à demeurer en Christ, à prendre du temps à demeurer, parce qu'il est la source de tout. Et donc, logiquement, c'est tellement simple l'évangile, en fait. Des fois, on passe à côté parce qu'on est vraiment tordu. Mais il suffit de venir s'abreuver, quoi. Il suffit de venir se remplir. Il suffit de venir prendre. Jésus nous l'a dit, il a dit à ses disciples. Et des fois, on lutte contre ça, parce que notre chair rejette contre ça, mais il faut savoir passer le cap. Et je pense que Le warning aussi que j'ai à donner ce matin, c'est que n'ayons pas des vies chrétiennes par procuration. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on vit notre vie chrétienne au travers de ce que nos pères nous disent de faire, ce que nos dirigeants, nos responsables d'église nous demandent de faire, au travers de ce que on peut voir sur Internet, on peut lire dans des bouquins. C'est bien, c'est pas mauvais, puisque moi je suis le premier à écouter des messages sur internet, tout ça, mais c'est pas ce que Dieu nous demande essentiellement. Dieu nous demande de demeurer en lui, et j'ai envie de vous dire ce matin, si vous pensez que demeurer en lui c'est ok, je te donne un quart d'heure et j'écoute un petit message sur internet, j'ai envie de vous dire c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. Pour entrer en communion avec lui, il faut savoir tout couper, arrêter les bouquins, arrêter internet, se poser dans un endroit secret, dans un endroit où on va pas être dérangé, et dire: Seigneur, me voici, Seigneur Jésus, j'ai envie que tu grandisses en moi, j'ai envie de refléter ta gloire, j'ai envie, Seigneur, d'être imprégné de tes paroles, pour que quand je sois face à une situation, je puisse annoncer tes paroles. Et ça, c'est hyper important, c'est hyper central. Quel est le plus grand des commandements ? Un jour, c'est un docteur de la loi qui pose cette question à Jésus, et Jésus lui répondra, le premier, le plus grand, c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Mais il ne s'arrête pas là, Seigneur. Amen. Il dira: c'est le premier et le plus grand. Mais voici le second qui lui est semblable. Et le second, c'est: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si le second est semblable au premier, ça veut dire que les deux ne font qu'un, finalement. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. On est d'accord ? C'est ce que Jésus a dit, hein. Et alors que je préparais ce message, j'étais sur mon vélo elliptique et je me disais, il y a une image à sortir de la croix en fait. Jésus est central. Jésus, il a été crucifié au milieu là, de la croix, au centre. Il n'a pas été crucifié à gauche, à droite, en haut, en bas. Il est central. Il est central. Pardon. Merci beaucoup, Laurent. Ça marche ? Ouais ? Ok. Et donc, je réfléchissais à ça et j'ai vu une vision, j'ai vu la croix, j'ai vu Jésus au centre de la croix et j'ai vu un peu ce que Dieu voulait nous dire. Alors, c'est peut-être du déjà vu, on l'a peut-être déjà entendu, mais c'est pas grave. J'ai vu les deux axes, en fait, vertical et l'axe horizontal. J'ai vu la relation, en fait, qui va vers le haut, qui va vers le Père. J'ai vu la relation aussi qui est à plat, qui va vers les êtres humains. Et il y a deux directions, vous avez vu, il y a un côté droit et un côté gauche à l'horizontale. Il y a le côté où on va vers nos frères et sœurs dans l'Église, il y a un côté où on va vers ceux qui sont perdus, loin de Christ. Et Jésus est central et c'est hyper important parce que, en fait, quand on décide de demeurer en Christ et qu'on décide de ne faire que ça, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on va avoir le luxe ou le temps pour sans arrêt baigner dans la présence de Dieu. On va monter là-haut, en relation verticale, on va monter en haut de la croix, on va essayer d'atteindre Dieu le Père. Très bien. Mais ça fait de nous des chrétiens perchés, en fait. Honnêtement, honnêtement, certainement remplis de la présence de Dieu, comme cet homme qui était dans le restaurant. Mais par contre, ce que je vois Jésus, et je voyais Jésus qui était sur la croix au centre, et qui nous faisait comme ça, allez, maintenant c'est bon. Tu es monté là-haut sur la montagne, tu es allé voir Dieu le Père, maintenant tu redescends, parce qu'il y a le plan horizontal, il faut s'en occuper aussi. Et ça me fait penser à Moïse quand il est monté sur le mont Sinaï, qu'il est allé dans la présence de Dieu, qu'il est redescendu avec les tables de la loi. Mais il y a eu un moment où il est redescendu. Et pourtant, lui, il disait qu'il n'avait pas envie de redescendre. Il était bien dans la présence de Dieu. Et à un moment, il a dû redescendre parce qu'il avait besoin d'enseigner le peuple. Il avait besoin d'être au contact de l'humanité. Et en fait, quand ça ne va pas dans ta vie aussi, tu es plutôt down. C'est toujours l'axe vertical. Donc en fait, tu es en dessous du centre de la croix. Et là, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible quand ça ne va pas? Si tu as l'honnêteté de reconnaître que ça ne va pas, si tu tournes tes yeux vers le Seigneur Jésus, il est fidèle et juste pour te libérer. Et donc, quand tu lèves les yeux, tu vois Jésus qui est central, qui est au milieu de la croix, et Jésus t'envoie une corde, t'envoie sa main, et te récupère, et te remonte à son niveau. Et de la même sorte, sur l'axe horizontal, en fait, on peut être très, très influent et très, très bien avec les frères dans l'Église, et être pas du tout influent auprès de ceux qui se perdent de l'autre côté. Amen. Et inversement, on peut être évangéliste à fond, tout ça, et pas du tout aimer la communion fraternelle dans notre Église. Et en fait, Jésus, qui est placé au centre de la croix, nous montre que il est un Dieu d'équilibre, et que ce qu'il veut pour nous, c'est à la fois qu'on soit bien dans l'Église, dans la communauté, et bien au dehors. Il veut à la fois qu'on aille voir le Père de temps en temps, parce que lui-même nous a donné accès au Père. Mais par contre, tu redescends, il y a des choses à donner. Il veut qu'on redescende aussi, qu'on ne reste pas perché là-haut. Et puis quand on tombe, eh bien, il est fidèle et juste pour toujours nous regarder. Il nous surveille tout le temps, il est toujours là, tous les jours avec nous. Et puis si on lève les yeux vers lui, alors il nous tendra la perche. Amen. Alors, aujourd'hui, on va peut-être pas. Je ne ferai pas d'appel parce que je pense que. Pour deux raisons. Parce que si je faisais un appel, je pense qu'on est tous concernés, donc je vais voir tout le monde se lever. Donc ça ne va pas être un appel précis, ça va être un appel collectif. Donc je vois pas l'intérêt de le faire là. La deuxième chose, c'est que c'est pas ma prière pour vous qui va changer les choses. Et je pense que vous l'avez bien compris. C'est à vous de mettre en action cela. C'est à vous d'actionner quelque chose dans vos vies. C'est à vous d'aller chercher la présence de Dieu, chercher la présence de Jésus, de considérer que Jésus-Christ est central dans votre vie. Et pour recevoir ces paroles, eh bien, il faut demeurer en lui. Il faut demeurer en lui. Alors, je ferai tout à l'heure une prière d'engagement, si ça ne vous ennuie pas, on se lèvera et on fera une prière d'engagement. Et je vous propose sur quoi on peut s'engager ce matin. Demeurer auprès de lui, prendre du temps. Amen, c'est la première des choses, c'est la source. Donc, si on ne fait pas ça, on se perd, quoi. On se noie, on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde avec des beaux projets. Si on ne commence pas par ça, par venir demeurer en Christ, par venir au pied de la croix. Par venir chercher la présence du Dieu qui a été crucifié, ressuscité, amen, à qui tout pouvoir a été donné, eh bien, on loupe le but, amen. Deuxième point, donc, je nous engage sur le premier point à vraiment cette semaine déjà commençons par prendre du temps dans la présence de Dieu. On coupe tout, les vidéos, les livres, ça fait pas partie de ça. C'est très bien, mais c'est autre chose. On rentre dans la présence de Dieu, on reste et on vient chercher Jésus-Christ, amen. Deuxième chose, se nourrir des paroles de Jésus. C'est hyper important parce que la Bible dit que la parole de Dieu est efficace, elle est vraie, elle est efficace. Il y a un texte aussi dans l'Ancien Testament qui dit que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son dessein. Ça veut dire que quand on donne une parole de Jésus-Christ à quelqu'un, il y a forcément un effet qui se produit. Il y a forcément un effet qui se produit. Et je vous encourage à vous nourrir des paroles de Christ cette semaine, peut-être. Focusez-vous sur les évangiles. Vous savez, il y avait des Bibles quand j'étais petit, avec juste les textes de Jésus-Christ écrits en rouge. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais enfin, voilà, c'était assez aidant pour voir ce que Jésus disait. Eh bien, je vous encourage cette semaine à lire et à vous nourrir des paroles de Jésus-Christ, parce qu'il y a de la vie là-dedans, il y a de l'efficacité, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a l'amour, il y a tout dans les paroles de Jésus. Et Un exemple aussi que je voulais vous donner cette semaine, un de mes amis m'a appelé, son oncle est malade, il est très malade, il est même condamné en fait, il m'en avait parlé déjà il y a quelques jours, et je lui avais répondu banalement, ok, je vais prier pour toi, tu sais qu'on est chrétien, je vais prier pour toi. C'était bien, c'était sympa de faire ça de ma part, mais j'étais insatisfait de ma réponse. Alors je l'ai fait, hein, j'ai prié, j'ai commencé un parcours de prière pour ce monsieur, mais j'étais pas satisfait en fait. Et donc cette semaine, il me rappelle, il me dit, il faut que tu viennes. J'ai eu le compte rendu des médecins, voilà ce qu'ils vont décider. Et comme je travaille un petit peu dans la santé, il voulait avoir mon avis. Donc j'y suis allé. Et là, je constate que son oncle, il s'appelle Robert. Donc pensez à lui cette semaine. Et on va prier pour lui tout à l'heure. Mais il est complètement condamné par la médecine. Il a un cancer généralisé. Donc on lui donne clairement sur le compte rendu, il a marqué sans traitement quelques semaines, avec traitement quelques mois, guérison impossible. Voilà ce qui est marqué noir sur blanc, et c'est le compte rendu qui a été fait à la famille. Donc il venait, voilà, il voulait me demander ce que j'en pensais. J'ai dit, bah écoute, moi je suis pas médecin, je travaille dans, ouais, je sais lire le compte rendu, mais je suis pas médecin. Mais de toute façon, je pense que c'est très clair. Robert est condamné. Et là, forcément, mon ami, il était un peu, bon, il s'en doutait, mais voilà. Et là, je commence à lui donner des paroles de Jésus. Des paroles de Jésus, de la parole de Dieu. Je commence à lui dire, mais tu sais, Jésus a reçu toute autorité, tout pouvoir. Je suis allé plus loin que de lui dire, on va prier pour toi, ça va aller. J'ai annoncé Jésus, j'ai annoncé ce qu'avait fait Jésus dans ma vie. Moi, il m'a guéri, j'avais 4 ans. Je lui ai raconté ce témoignage-là. Je lui ai annoncé ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Je lui ai annoncé des miracles qui s'étaient produits et qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et là, il m'a regardé, il s'est mis à pleurer. Voilà, et on a pleuré ensemble, c'était un super moment. Et je vous mets donc Robert sur votre cœur, parce que au-delà de la guérison de cet homme, c'est le salut de toute une famille qui est en jeu. Et je crois qu'au travers de cette guérison, Dieu va faire une œuvre extraordinaire. Et le but ultime de Dieu, ne l'oublions pas, c'est notre salut. C'est pas la guérison, c'est notre salut. Et s'il peut utiliser le moyen de la guérison pour amener les gens au salut, gloire à Dieu. Et c'est important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis allé plus loin que je prierai pour toi. J'ai prié avec lui et j'ai annoncé les paroles de Christ. Et ça a eu son effet, comme la Bible le dit. Quand ma parole est donnée, elle ne revient pas à moi sans effet. Et je nous engage, frères et sœurs, donc à demeurer, à prendre du temps avec Christ. Amen. À nous nourrir des paroles de Christ et à proclamer les paroles de Christ envers nos concitoyens qui se perdent. Amen. Et dernière chose, à aimer les gens. Amen. Parce que finalement, les deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base de tout, on le sait. Je vois l'heure qui tourne, mais aimons les gens. Frère, aimons Christ avant tout, bien entendu, mais aimons les gens. Et ce n'est pas toujours évident, hein, parce que quand on aime, en fait, on a envie de connaître. Donc, quand on aime Jésus, logiquement, on a envie de passer du temps avec lui, dans sa présence. L'inverse n'est pas forcément vrai. Quand on connaît les gens, on ne les aime pas forcément. C'est pour ça qu'il faut d'abord aimer les gens. Aimons les gens. Moi, je suis manager d'équipe de vente, donc, et j'ai 8 commerciaux à gérer. Et au début, je me disais, mais comment je vais faire? Parce qu'il y en a qui me saoulent, très franchement. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais il y en a qui sont pénibles, voilà. Et Jésus m'a dit, mais aime-les, au-delà de ce qu'ils te font, de comment ils sont, de leurs réactions, aime-les. Et je m'applique, je vous assure, ce principe-là dans la gestion de mon équipe, et ça fonctionne. Plus je les aime, et plus ils me le disent, mais j'ai l'impression que tu apprécies ce que je fais. Et oui, je dis oui, j'aime. Et j'aime, au-delà de ce que tu fais, j'aime ta personne. Et ils sont vraiment... J'ai déjà des retours comme quoi ils sont étonnés de voir ça. Donc je vous engage aussi, c'est le quatrième point, cette semaine à commencer à aimer les gens qui sont autour de vous. Amen. Et puis dernier point, un petit verset que ma femme chérit plus que tout au monde. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Alors je crois que si on veut respecter les paroles de Jésus qui dit « demeurez en moi », eh bien il faut qu'on obéisse à cette parole. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever, peut-être que Estelle tu peux venir jouer un petit peu de piano, on va faire une prière d'engagement, on va prier pour Robert aussi, parce que en fait mon ami m'a dit « écoute, je veux bien que l'église prie pour Robert, pour mon oncle ». mais j'ai envie qu'elle prie pas seulement une fois, mais deux fois. Alors j'ai dit, on va faire une prière, mais il y aura une centaine de personnes ou 150 personnes qui prieront, ça te va? Il m'a dit, ok, c'est bon comme ça. Amen.